Et le dernier livre au programme de cette dispute, celui de Pierre Guyotat, intitulé Idiotie, qui revient une fois encore sur la vie passée de l'écrivain dans un moment ici charnière, puisque il va s'agir de son entrée dans l'âge adulte. Le texte déroule les années 58 à 62, de l'arrivée à Paris après les années de pensionnat à Lyon jusqu'au retour d'Algérie, dont on sait à quel point cette guerre aura marqué le futur auteur de Tombeau pour 500 000 soldats. Retournés dans les chambrées, nous nous défaisons de notre uniforme, enfilons nos vêtements civils. Pour la vie, effet militaire remis au fourrier, sac au dos, nous passons le portail, les guérites. Enfin, sans rang, nous courons les 3 ou 4 derniers kilomètres de goudron crevassé vers la gare entre les champs de betteraves trempés. Ai-je au cou la chaînette de ma plaque d'immatriculation ou l'ai-je rendue avec son numéro gravé de chiffres? Des milliers d'entre nous l'ont porté au cou de leur dépouille, quelquefois mutilés des organes par lesquels ils auraient pu transmettre la vie. Un peu de leur cœur, de leur esprit, de leur souffle au monde et du souffle du monde en eux, allongés dans les gorges, sur les plateaux, sur les pavés, sur les trottoirs de l'Algérie. Mais avec eux, auprès d'eux, maintenant et à cette heure encore, tous les égorgés, tous les mutilés du nez, des lèvres, des oreilles, tous les énucléés, tous les démembrés, tous les désentraillés, tous les traqués abattus, tous les battus à mort, tous les déchiquetés, tous les enflammés, bébés jetés contre les murs, mères enceintes éventrées, toutes les violées, tous les torturés, tous les ébouillantés vifs, tous les hachés, tous les sciés vifs, tous les écorchés, tous les rendus fous, tous les humiliés à vie, tous les disparus jamais retrouvés, victimes à retardement du crime originel de la conquête. Vers Paris, vers la fin, vers mon père, humilié, plus de moi que de mes juges, mais décidé à en découdre, tout à y reconquérir, mais avec quelle force de chair renouvelée. Une fois n'est pas coutume,
oui.
J'ai lu la fin du livre.
Vous avez transgressé.
Eh ben oui, mais est-ce que ça s'y prêtait pas, Florent Georgescu?
Ça s'y prêtait parfaitement. Le suspense était
faible dans le livre. C'est pas facile à lire, mais du Guyotat, hein,
c'est
aussi,
pas,
hein.
Oui. ce sont des passages plus réguliers que certains au milieu. Mais c'est un très bon résumé et de la forme et du récit dans ce livre. Donc oui, pour résumer un petit peu. Donc d'abord rappeler que ce livre s'inscrit dans une ligne de l'œuvre de Guyotat. Vous connaissez tous, enfin je ne sais pas si tout le monde l'a lu, la ligne la plus ardue de son œuvre, la plus radicale, qui est celle écrite dans ce qu'il appelle sa langue, dans la langue qu'il a créée depuis Prostitution dans les années 70. C'est Progéniture par exemple, qui est un très grand livre extra qui demande beaucoup beaucoup de mois de travail peut-être pour y entrer profondément, mais ça en vaut la peine, passons. Quelques années, en fait depuis je ne sais plus exactement la date de ce livre, mais depuis Coma, il a commencé une entreprise dont les gens n'ont pas bien remarqué d'ailleurs que ça avait coïncidé avec la publication d'une biographie sur lui. Une biographie a été publiée vers 2004 ou 2005 aux éditions Léo Cher, signée de Catherine Brun. Juste après, il commençait à raconter lui-même sa vie. Il y a une sorte de vengeance à l'égard de sa biographe. Donc avec Coma, il a commencé à raconter dans ce qu'il appelle la langue normative, la langue qui se soumet aux règles communes, la langue donc française. Il a commencé à raconter sa vie, dans le désordre d'ailleurs. Coma évoque des épisodes beaucoup plus tardifs que ce que nous avons là. Il est revenu entre-temps sur son enfance. Ici, donc, ce sont les années... Ça commence par une fugue. Ce sont des années où il commence à quitter la maison de ses parents. Et surtout, ce ne sont plus ses parents puisque sa mère est morte. Et un des fils de ce livre-ci, c'est cette mort, cette absence de la mère. Un fugueur qui commence à vivre de petits boulots dans Paris, et puis qui, comme les jeunes gens de sa génération, on est au début des années 60, et doit partir sous les drapeaux, et en l'occurrence en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Et l'essentiel, enfin les deux tiers du livre sont algériens, et sont notamment concentrés sur ce qui lui arrive là-bas, c'est-à-dire qu'il finit par être arrêté à cause de ses écrits qui auraient été retrouvées de notes, car à ce moment-là, il écrit déjà, et en fait, il commence déjà à publier, c'est le moment où il publie ses premiers livres au Seuil. Des écrits l'incriminent, et il y a de très longues scènes d'interrogatoire où on voit même un colonel essayer de faire l'exégèse d'un texte de Guyotat. Courage, colonel. Et voilà l'essentiel du livre. Ça, pour le résumer. Peut-être.
Premier regard, parce que ça va être rapide. Lucille Como sur Idiotie de Pierre Guyotat chez Grasset.
Oui, alors moi, c'est une écriture que je fréquente pas du tout. Je me suis souvenue, après avoir lu Idiotie, avoir lu quelques pages, je crois, de Tombeau pour 500 000 soldats, mais c'est resté dans un coin assez obscur de ma mémoire. Moi, j'ai eu du mal à le lire, hein. Il faut vraiment, objectivement, j'ai eu du mal parce que déjà, c'est une écriture difficile, même si elle est certainement plus facile à lire que d'autres de ses livres. C'est une écriture qui est une sorte de... Là, on l'entend en effet pas tellement, parce que la fin est assez lyrique, donc c'est porté. C'est une forme de ligne brisée, avec beaucoup de saccades, et qui fonctionne vraiment comme des petites touches. C'est-à-dire qu'on a vraiment des scènes avec des détails, donc souvent qui sont des détails des corps, des personnages qui sont décrits. Parce que le corps a une grande importance. Ça donne quelque chose de très maniéré aussi. Par vignettes qui parfois me fatigue un petit peu. En fait, il y a un effet de saccade parfois dans la description de l'action qui à la fois donne une impression de vertige et qui crée même paradoxalement des effets de suspens. Je pense qu'il y a des moments par exemple où le narrateur découvre un détective en bas de chez lui et où l'écriture de Guyotat comme ça par petites touches donne une vraie efficacité dans la narration. Et puis il y a des effets de répétition qui sont parfois difficiles à lire, qui créent une ivresse qui moi me saoule au sens premier du terme, vraiment, ça me crée cet effet-là presque de nausée, et j'ai du mal à lire ça. Par ailleurs, je trouve très surprenant, et au début ça m'a beaucoup désarçonné, et en fait c'est ce qui m'intéresse le plus, la transition entre la première partie, donc le premier tiers qui est parisien, et qui pour moi est très... Me convoque des images d'un Paris beaucoup plus ancien que le Paris des années 60, qui est une bohème très romantique dans le fond. Et il y a aussi quelque chose de ça dans son écriture. Et ces deux tiers algériens qui arrivent d'un coup et auxquels on ne s'attend pas quand on connaît pas par ailleurs la vie de Pierre Guyotat. Et finalement, c'est cette espèce de coupure-là qui m'intéresse le plus dans le roman.
Elisabeth Philippe.
Coupure qui n'en a pas vraiment une, puisque finalement tout le propos de Guyotat, c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif, et comment les événements, enfin l'histoire, imprègne son corps, imprègne son désir, et bien sûr va imprégner son écriture, et comment même désirer, lui est impossible de désirer un corps colonisé ou un corps qui il appelle ça une peau arabe qui incarne la colonisation, qui est pour lui un des plus grands crimes. Donc c'est un corps et un écrivain hanté par la guerre qui vient de s'achever, la Seconde Guerre mondiale, et par la guerre qui est en train de se mener, la guerre d'Algérie. Moi, je trouve que c'est un roman magnifique, finalement peut-être un des plus accessibles de Guyotat. En tout cas, je trouve qu'il est extrêmement accessible. Cette langue dont vous parliez, Lucille, moi, je trouve que c'est un écoulement absolument magnifique, un écoulement d'une sorte de la froide qui charrie également toutes les humeurs possibles, parce que cette confrontation avec le sale aussi. En fait, Guyotat, c'est une forme de moine-soldat, presque d'anachorète, qui se complaît comme un saint dans cette saleté extrême, qui veut partager la misère, et puis qui devance même l'appel finalement sous les drapeaux, parce qu'il aurait pu bénéficier d'un sursis, et lui demande à être dans cette...
Il est plus jeune que ses camarades.
Absolument, il y a cette scène magnifique où il est à Paris, il est recueilli par une prostituée parce qu'il ne se nourrit plus que d'huile et de pain, et il a un malaise à l'église Saint-Eustache, et donc ça va presque faire l'articulation qui est incroyable, et c'est vraiment pour coller au titre, moi, ce que j'ai trouvé très beau, donc c'est Idiotie, et à un moment il parle de la lecture de Faulkner qui va déclencher quelque chose chez lui dans son écriture, et on ne peut que penser au bruit et la fureur, et donc au vers de Shakespeare qui donne le titre Le bruit et la fureur, une histoire dite par un idiot pleine de bruit et de fureur, et c'est ça, Idiotie. Et c'est vraiment un très très beau texte.
Ouais, moi je souscris pleinement en disant que moi j'avais été très marqué par Coma, que j'ai lu plusieurs fois, parce que je pense que ça on y gagne à s'y replonger, et que moi cette ivresse, ça agit à plein et de façon très bénéfique chez moi. Je suis à la fois extrêmement admiratif, parce que je ne sais pas comment effectivement il arrive à construire ce flux-là, parce qu'il y a quand même quelque chose dans lequel on est complètement plongé, entraîné. Moi, je trouve ça d'une force extrême. peut dire que les scènes de sexe sont assez réussies pour vous citer, parlant d'Emmanuel Maillat-Mactab, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et juste avant de vous laisser.
Réussie n'a pas le même sens.
Voilà. Juste avant de vous laisser finir, Florent Jarlesco, quand même, un commentaire, Boris Pinot, sur Twitter.
Oui, un mot dithyrambique de Gilles Morena. C'est l'un des plus beaux livres écrits en langue française que j'ai lu depuis au moins 10 siècles. 10 vies, 10 ans. Je suis sidéré, dépassé, presque fatigué de ce lyrisme outrancier, mais quelque chose se passe qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps. L'émerveillement, la fascination, me signifiant qu'il n'y a que vous, monsieur Guillotat, pour être poète comme vous l'êtes et faire don d'une telle force et d'une telle écriture.
Ah, c'est le pseudo de Florent Jorgesco, donc on l'a trouvé. Allez, Florent. Allez, 2 minutes 30, pardon.
Écoutez, mais oui, je suis
vous avez
d'accord.
Dit que vous aviez qu'un mot
je suis bien
à dire
d'accord.
En même temps.
Oui, mais je l'ai dit. Je suis bien d'accord avec ce monsieur. Sauf le mot lyrisme. C'est pas du tout ça. Et je suis d'accord en revanche avec Lucille quand elle parle d'être saoulée. Oui, c'est vrai que ça nous change de la vitelle. C'est dense, c'est plein. C'est le contraire pour moi du lyrisme. Il y a une touche de lyrisme dans le passage final que vous avez lu, Arnaud. Mais il n'y en a presque pas dans le livre. En fait, c'est la littérature à l'état pur parce que c'est une langue qui est capable en permanence de se casser pour y faire entrer le maximum de réel possible sous toutes ses formes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Il faut parler de la notation, il y a du sens de la vision chez Guillotat. Ces phrases ont des yeux au bout. Tout.
Et lui-même est souvent voyeur
en plus. À mesure et regarder et le mouvement essentiel en effet de Guillotat, les scènes de sexe sont des scènes de voyeurisme, la sexualité est toujours celle des autres et il y a une puissance dans le voyeurisme qui est comme une quintessence de son art. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il faut comprendre même par rapport aux 587 je ne sais plus romans, c'est que c'est ce qu'on attend de tout livre et c'est ce qu'on rencontre si peu souvent, c'est-à-dire une langue où moi, je ne trouve pas là-dedans un seul mot qui n'est sa nécessité absolue pour exprimer le réel qu'on veut exprimer. Alors que dans tous
sans
les livres
compter,
qu'on lit, on entend beaucoup, toujours, du convenu, de l'expression sociale. Il n'y a rien de social là-dedans.
Sans compter l'usage de mots, rares comme pelu, la main pote, enfin, il y a tout ce vocabulaire aussi.
Qui, à mon avis, tient justement, ce sens de la réalité. C'est la langue
de
qui se parlait à ce
absolument
moment-là, qu'il fait entendre,
absolument,
ou la langue de milieux différents.
Sans que le texte perde rien de son incroyable modernité, de
absolument
sa radicalité.
Mais c'est la modernité absolue, c'est la liberté absolue, parce qu'il n'y a aucune trace de convention. Tout est inventé à mesure. C'est la différence radicale d'un très grand écrivain avec
les autres.
Pour autant, sans les conventions, on peut retrouver dans son écriture des racines qui peuvent être de belles racines, mais qui, à mon avis, sont des formes de référence à une littérature plus ancienne. Alors, peut-être pas le lyrisme, mais de romantisme.
Je suis totalement d'accord, mais
voilà,
ça n'a aucun rapport.
Ce qui, à mon avis, contrevient au caractère entièrement neuf de son écriture et qui, moi, me laisse un goût parfois de déjà-vu. Déjà-lu.
Non, ce serait vrai si le neuf radical sans héritage existait. On ne fait de neuf que de cette manière. Lisez Les leçons sur la langue française de Pierre Guillotat, qui est un livre de 1000 pages, qui est justement la totalité de
allez,
ses sources.
Pour demain soir.
Qui est une histoire
merci
de littérature. Mais quelle est cette idée
du
le neuf n'existe que de la manière que vous venez de décrire. C'est quoi
on
le neuf
radical? On est d'accord. Idiotie de Pierre Guillotat chez Grasset.